qui n'a d'apparence que le corps, qui devient le corps du Seigneur, et le vin qui n'a pas d'apparence que le vin, mais qui devient le sang du Christ. Donc, ceux qui professent cette doctrine mangent un corps humain et boivent du sang humain. Alors, une question. Donc, on a dit, pour un juif, c'était une abomination de manger la chair humaine, mais de boire du sang aussi. Alors, il y a une question qui est là. Bon, indépendamment de cette doctrine-là, est-ce que le sang lui-même en soi, est-ce qu'on peut en consommer? Parce que la chose n'est pas peut-être aussi claire que ça dans le monde. Donc, je vous propose qu'on puisse commencer par cette question-là, la question du sang. Peut-on manger, ou plutôt, enfin, peut-on consommer du sang? Et je vous fais passer les feuilles ici. Alors, là-dedans, ça s'est mélangé. Hein. Il y a donc une partie de ce qu'on va dire sur le sang. Mais l'autre feuille, c'est pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas amené leur feuille. C'est la même que celle de la semaine dernière. Alors, peut-on consommer du sang? Cette question a rabusté pas mal de personnes, non? Et c'est vrai qu'il y a des doctrines qui circulent là-dessus, notamment certains mouvements qui, eux, prônent vraiment, qui interdisent toute consommation quelconque, et sous quelque forme que ce soit, du sang. Alors, tout part de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance est un commandement que nous trouvons dans Genèse chapitre 9, les versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse chapitre 9, verset 1 à 4?
Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meurent sur la terre, pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut, qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang.
Bien, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre Lévitique 3:17?
Oui. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang.
Voilà. Alors la question est, à qui s'adresse l'interdiction de consommer du sang? Quand on voit ces deux passages. À qui s'adresse?
Les juifs, essentiellement.
Ça c'est Lévitique et l'autre. Noé et sa descendance, oui. Donc nous. Bien, donc vous pouvez noter donc à tous les hommes, tous juifs et non juifs, Israël et pas Israël, ce commandement nous concerne. Ça c'est l'ancienne, alors il y a beaucoup de textes, évidemment j'ai choisi que ces deux-là. Mais la nouvelle alliance, est-ce qu'elle en parle? Oui, elle en parle. Notamment dans Acte 15. Et si vous lisez Acte 15, vous allez vous apercevoir qu'il y a l'interdiction de consommer du sang pour les chrétiens, et notamment les chrétiens issus de, du paganisme, c'est-à-dire les païens. Acte 15. Acte 15, c'est le premier concile qui est appelé le Concile de Jérusalem pour traiter de la question, une question très importante que nous allons voir, parce que pour bien comprendre ce problème de la consommation du sang, il faut être clair à propos de Acte 15. C'est très important de situer acte 15 dans son contexte. Quel est le contexte de l'époque? Déjà, à l'époque donc, du livre des actes, quels étaient les rapports entre les juifs et les non-juifs? Alors, pour un juif pieux, c'était une abomination d'avoir des relations avec un non-juif. Parce que les païens étaient considérés comme impurs, au même titre que les chiens d'ailleurs, les païens étaient appelés chiens. C'était impur. Même les apôtres, et notamment l'apôtre Pierre, même après la Pentecôte, ils avaient du mal à concevoir que juifs et non-juifs formaient désormais un seul corps, qui est le corps de Jésus-Christ. Quand il est envoyé chez Corneille, par exemple, Corneille, donc un païen, Dieu l'envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle à Corneille. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Actes chapitre 10, versets 25 à 28? Actes 10, 25 à 28.
Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme moi aussi. » C'est ça?
Oui, jusqu'au verset 28.
Puis, tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'y étaient réunies. Il leur dit, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. »
Bon, il exagère un peu à la première pierre, parce qu'aucune difficulté ici, il a posé une certaine résistance quand même. Enfin, il n'était pas tellement décidé à venir, mais Dieu l'a poussé à venir. Donc, voyez le climat dans lequel juifs et non-juifs vivaient. Alors, imaginez, dans ce climat-là, les chrétiens, les juifs et les païens se convertissent à Jésus-Christ et doivent vivre donc ensemble. Il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a forcément des différences d'appréciation de la vie chrétienne, de ce que doit être la vie chrétienne. Alors, dans ce contexte-là, lorsque l'apôtre Paul se trouvait à Antioche, il a eu une discussion très très serrée avec des chrétiens, mais d'origine juive, qui ont enseigné la chose suivante. Donc voici la doctrine. Hein. Quelle était la doctrine de ces juifs qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus? Ils disaient la chose suivante. Même si vous croyez au Seigneur Jésus, il faut absolument vous faire circoncire et obéir à la loi de Moïse, sinon vous n'êtes pas sauvé. Donc, ils étaient vraiment très à cheval sur la loi de Moïse. Et ces chrétiens d'origine juive, on les a appelés des judaïsants. C'est-à-dire des chrétiens qui voulaient mélanger le christianisme et le judaïsme, ou plutôt qui insistaient auprès des païens sur le fait qu'ils ne pouvaient pas devenir, ils ne pouvaient pas être sauvés s'ils n'observaient pas la loi de Moïse. Alors cette loi, et notamment les coutumes telles que la nourriture pure et impure, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Il y avait la circoncision, tous les garçons devaient se faire circoncire. La régularité au temple, etc., etc. Il fallait se faire juif. En fait, pour eux, ils mettaient la loi de Moïse au-dessus de Jésus-Christ. Au-dessus de Jésus-Christ. Et c'était généralement les pharisiens qui étaient convertis. Ils mettaient la loi de Moïse au-dessus de Jésus. Pour eux, Jésus était le Messie juif. C'est pas le Messie, bon, certes le Messie, mais le Messie surtout juif. On ne pouvait donc pas vraiment suivre ce Messie juif sans se faire juif soi-même. C'était pas possible. Donc, sans se soumettre à la loi mosaïque, comme on l'a dit tout à l'heure. En fait, quand on regarde de près, vous vous rendez compte que Dieu s'était révélé au peuple juif. Et tout d'un coup, ceux qu'on appelait des impurs rentrent dans l'alliance avec Dieu. Alors, il y a une crispation qui est là. Est-ce que l'identité juive ne va pas être diluée par cette nuée de païens qui ne connaissent rien aux choses de Dieu et qui rentrent tout d'un coup dans la relation avec Dieu? Est-ce que nous n'allons pas perdre notre identité en tant que juifs? C'est un problème sérieux. Et qui est toujours d'actualité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Quand des étrangers arrivent en masse dans un pays, il y a cette crainte qu'ils apportent leurs coutumes, etc., et que la coutume locale soit diluée et disparaisse. Mais en réalité, le problème était beaucoup plus profond que ça. Alors d'abord, est-ce qu'on peut lire dans Actes chapitre 15, le premier verset et le cinquième verset?
Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés.
Verset 5. Et le verset 5.
Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse.
Voilà. Mais en réalité, ça, c'est que la pointe de l'iceberg qui cache un gros problème. Un gros problème. Le problème est beaucoup plus profond que la question de l'identité juive. Parce que même les apôtres, ils ont du mal, hein, comme on l'a vu avec Pierre. En fait, voilà, il y a là tout un tas de rituels, des choses qui ont été établies et qui ont été écrites par Moïse, par les prophètes, etc. Et Jésus est venu. Il a instauré une nouvelle ère. Mais comment concilier ce qui vient, les choses anciennes en quelque sorte, et les choses nouvelles? Comment les concilier? Comment établir le pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? C'est pas évident. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Nous savons que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Jésus-Christ. Prenez Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Colossiens 2, 16 et 17.
Personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
Hébreux 9, 8 à 10.
Du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation.
Voilà, nous avons cette connaissance-là. Mais à l'époque, vous imaginez, ils n'avaient pas tout ça. Comment concilier les deux? Alors, avec cette discussion donc de Paul, Barnabas et les judaïsants, il a été convenu qu'on envoie une délégation à Jérusalem pour traiter cette question de la loi de Moïse par rapport au salut en Jésus-Christ. Donc, Paul et Barnabas sont envoyés à Jérusalem. Ils rencontrent les apôtres. Ils leur soumettent cette question et il y a une réunion, un concile pour traiter de cette affaire. Et c'est Actes chapitre 15. Bon, alors nous allons pas lire tout le chapitre, mais je vais juste faire un résumé. Au cours de cette réunion, les pharisiens, les judaïsants, sont venus à l'attaque et ils ont dit « Il faut absolument circoncire les païens qui rentrent dans, qui acceptent le Seigneur Jésus parce que sinon le salut n'est pas complet. » Moïse est enseigné partout et Moïse est la référence par rapport aux choses de Dieu. Mais l'apôtre Pierre se lève au milieu et il va remettre un peu les pendules à l'heure. Il va dire, vous voulez imposer la loi de Moïse aux païens qui ont accepté Jésus-Christ. Mais nous-mêmes les Juifs, est-ce que nous respectons déjà cette loi? Regardez le verset 10 de Acte 15. Acte 15, 10.
Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir?
Voilà. Donc, en fait, Pierre est en train d'expliquer que ce n'est pas possible. On ne peut pas leur imposer un joug que nous-mêmes, nous n'avons pas pu porter. Et tous les responsables sont d'accord avec l'apôtre Pierre. Seulement, il y a les judaïsants. C'est des pharisiens. N'oublions pas que c'est des gens coriaces. Hein. Vous vous rappelez, avec le Seigneur Jésus, ça n'a pas été de la tarte. Et en fait, Pierre va continuer. Il va expliquer que Jésus, en réalité, est l'accomplissement et non le serviteur de l'ancienne alliance. Il est l'accomplissement de la loi de Moïse. Donc, le salut ne peut pas être conditionné par l'observation de la loi de Moïse. Toute la loi de Moïse, y compris cette question qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire la consommation du sang. On ne peut pas imposer la loi de Moïse, on ne peut pas dire que la loi de Moïse est une condition de salut. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va l'expliquer au verset 7 et 8. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 7 et 8 de l'acte 15?
Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. »
Et le verset 11 aussi.
Là, je me suis trompé quelque part. Non,
non, mais tu peux lire le verset 11 maintenant.
Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux.
Voilà. Alors, il rappelle cet épisode chez Corneille. Lorsque l'apôtre Pierre est arrivé, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle et le Saint-Esprit, de la même manière qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur des païens et les païens ont été baptisés du Saint-Esprit. Exactement la même manière que les juifs, c'est-à-dire à la Pentecôte. Alors Pierre dit, mais regardez, ils ont été baptisés du Saint-Esprit de la même manière que nous. Donc, la condition de la loi de Moïse n'est pas nécessaire au salut, au baptême du Saint-Esprit. Alors, cette question du lien entre la loi et le salut, Pierre, en fait, va démontrer que ce n'est pas parce qu'on observe la loi de Moïse, ce n'est pas parce qu'on mange ou on ne mange pas le boudin, le sang, qu'on est sauvé ou qu'on peut perdre son salut. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucune relation entre le fait de consommer du sang des animaux, entre le fait d'observer la loi de Moïse et le salut. L'homme est sauvé uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, sans aucune relation avec les œuvres, sans aucune relation avec la loi, l'observation de la loi de Moïse, y compris la consommation du sang. Et l'apôtre Jacques, qui était donc le responsable officiel de l'église de Jérusalem, va se lever à son tour, et lui aussi, en accord avec l'apôtre Pierre, il va démontrer, en interprétant un passage de l'Ancien Testament, il va démontrer que Dieu sauve les païens de la même manière qu'il sauve les juifs. Qu'il n'y a aucune différence. Alors Jacques, c'est pas n'importe qui. Hein. Bon, vous savez, c'est le demi-frère du Seigneur. Hein. Et c'est celui qui a écrit l'épître de Jacques. Et quand vous lisez l'épître de Jacques, c'est quand même assez énergique. Donc, en tant que responsable, en tant que pasteur, il a pris la parole et donc a bien expliqué les choses. Il a donné son point de vue entre les versets 13 et 21. Est-ce que quelqu'un peut lire du verset 13 au verset 21 de Acte 15?
Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours de sabbat dans les synagogues.
Voilà, donc il va en quelque sorte faire un peu la synthèse de tout ça. Et il va expliquer que les païens sont sauvés de la même manière, mais nous allons simplement leur prescrire trois. Bon, il y en a qui voient quatre choses, mais en fait, il n'y en a que trois. Les viandes, les animaux étouffés, on peut les mettre dans la série de ne pas manger le sang. Bon. Donc, il va dire trois choses seulement qu'on va leur prescrire. Ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, s'abstenir de toute souillure ou de toute sorte d'immoralité sexuelle et de ne pas manger de la viande avec le sang, donc le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc voilà une prescription du Nouveau Testament, donc qui nous concerne, venant de l'apôtre Jacques, donc le responsable de l'église de Jérusalem. Et donc, beaucoup de chrétiens se sont basés sur ça pour dire, voilà, nous devons respecter tout ce qu'ont dit les apôtres. Donc, nous devons respecter ces trois choses-là. Ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, s'abstenir de l'immoralité sexuelle et s'abstenir de consommer du sang. Alors, il y a quelque chose de bizarre parce que l'apôtre Jacques dit que nous sommes sauvés par uniquement la foi en Jésus-Christ et à la fin, il dit qu'on va quand même leur prescrire trois choses. C'est un peu bizarre parce que c'est un peu contradictoire. Pourquoi leur prescrire pour ça, alors qu'ils n'en ont pas besoin pour leur salut? Mais pourquoi? Alors en fait, en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. L'apôtre Jacques ne se contredit pas du tout si on considère, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 9 à 13. 1 Corinthiens 8, 9 à 13.
Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère.
Voilà. Bon, l'autre, Romain aussi, c'est pareil. Hein. En réalité, Jacques tient compte du contexte. Il y a là des Juifs dont la tradition remonte séculaire et donc qui ont toujours baigné là-dedans. Et d'un côté, il y a des païens qui ont des coutumes totalement différentes. Et tout ce monde se retrouve ensemble. Mais il y a une loi très importante, c'est la loi du respect des uns par rapport aux autres. Donc l'apôtre Jacques va trouver donc ce compromis, en quelque sorte, pour dire aux païens, vous ne devez pas blesser la conscience de vos frères issus du judaïsme. Et pour cela, vous avez la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Vous avez la liberté de consommer du sang. Mais faites attention, ce n'est pas une question de salut. Ce n'est pas une question de est-ce que je veux faire des choses pour essayer de gagner quelque chose? Non. Mais c'est une question de respect et de vivre ensemble par rapport à vos frères issus du judaïsme. Ne blessez pas leur conscience. Parce que leur conscience est très, très aiguisée par rapport à ces choses-là. Et donc, en fait, nous sommes ramenés au même problème que ce que nous avons vu quelques études plus tôt par notre frère Stéphane, hein, qui nous a fait expliquer ce problème des viandes sacrifiées aux idoles. Si toi tu es convaincu qu'une chose n'est pas bonne à manger et qu'un autre est convaincu que cette chose, je peux la manger, eh bien celui qui est convaincu qu'on peut la manger doit s'abstenir. Ne serait-ce que par respect pour l'autre. Si l'autre pense réellement que cette viande consacrée aux idoles, si je la mange, ben je deviens impur, mais moi je ne dois pas manger non. Donc, c'est un problème de vivre entre la communauté qui vient du judaïsme et la communauté issue du paganisme. Voilà donc comment l'apôtre Jacques a réglé ce problème-là. Ça s'appelle la liberté chrétienne. Mais alors, me direz-vous, bon, ok, viande sacrifiée aux idoles, on est d'accord. Manger du sang, on est d'accord, c'est dans la rubrique de la liberté chrétienne. Mais il y a 3 commandements. Pourquoi on a sauté le 2e, celui relatif à l'immoralité sexuelle? Pourquoi ne pas l'inclure aussi dans la liberté chrétienne? Intéressante quand même. Intéressante. C'est là où nous devons revenir à un autre principe qu'on avait énoncé la dernière fois. Nous devons tenir compte de ce que dit la Bible sur une question, ne pas prendre quelque chose et le sortir de son contexte. Que dit la Bible par rapport à l'immoralité sexuelle? 1 Corinthiens 6, 9 à 13. Est-ce que quelqu'un peut lire ça?
6, 9 à 13. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point de le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. J'ai pas les lunettes. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.
Voilà. Stop. Fin de discussion. Le corps n'est pas pour la débauche. Voilà. Donc, la liberté chrétienne ne s'applique pas à ce commandement. Alors, en conclusion, Matthieu, chapitre 15, verset 11.
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.
Voilà. C'est pas... Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais tout ce qui rampe, tout ce qui vole, tout ce qui gambade. Vous pouvez manger de tout ce que vous voulez, hein, les choses même les plus répugnantes. Ce n'est pas ça qui va vous souiller. Bon, évidemment... D'un point de vue santé physique, ça pourrait se discuter. Mais d'un point de vue santé spirituelle, non. Ce n'est pas ça. C'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Hein? Donc, que tu manges du boudin, du cochon, du chien même ou du chat, ce n'est pas ça qui va te souiller. C'est vraiment tout ce qui sortira de ton corps. Quand tu maudiras ton frère, quand tu auras une mauvaise pensée pour ta sœur, ça oui, ça souille. Mais sincèrement, rien ne souille. Et regardez 1 Corinthiens 10, 25 à 33. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25 à 33.
Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions, par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller manger...
Excuse-moi, bon, ça on revient donc à ce qu'on a lu dans le chapitre précédent. Est-ce que tu peux lire à partir du verset 31.
Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
Non, tu vas jusqu'à 33.
Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé.
Voilà. Ne soyez en scandale à personne. Si quelqu'un t'invite et que la personne ne boit pas du vin, par exemple, n'ouvre pas une bouteille de vin. Pour respect pour ton frère ou ta soeur. Voilà. En conclusion, alors, on avait vu quand même au début que cette interdiction de manger du sang s'étendait à tous les hommes, y compris à nous, Et nous venons de démontrer là que nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché. Mais en réalité, c'est une question bien plus profonde que la simple question de manger du sang. C'est la question du chrétien par rapport à la loi. Regardez, et je vais vous lire dans Galates 3, 23, 28. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Aussi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, etc. On revient à ce qu'on vient de lire. C'était un pédagogue, la loi. Tous ceux qui veulent plaire à Dieu par l'observation de la loi sont tenus d'observer toute la loi, de pratiquer toute la loi dans les moindres détails, non seulement en acte, mais en pensée aussi. En pensée aussi. Et qui est capable de le faire? Oh, frères et sœurs, comme dit l'apôtre Paul avec larmes aux Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voulez-vous revenir au principe élémentaire du monde? Ne bois pas, ne touche pas, ne fais pas ceci. C'est des principes élémentaires du monde. Ça ne contribue pas à notre salut. Le salut en Jésus-Christ, c'est vraiment vivre en symbiose par le Saint-Esprit, en vivre en Jésus-Christ. Ce n'est pas le manger et le boire. Je ne peux pas, nous ne devons pas critiquer nos frères et sœurs qui mangent ou boivent des choses qui nous dégoûtent ou nous déplaisent. Et n'en faisons surtout pas une condition de sainteté ou de salut ou n'importe quoi. Voilà. Donc, on va clore les débats là. Et on va revenir à notre... On va terminer. Donc, à la Sainte Cène. Donc, sur la feuille, concernant le repas du Seigneur.
La deuxième partie.
Alors, on était arrivé donc à la question... suivante, est-ce qu'on peut excommunier quelqu'un? Peut-on excommunier quelqu'un? La réponse est, on l'avait d'ailleurs donnée la dernière fois, la réponse est oui. Si quelqu'un s'écarte de la bonne voie et refuse d'écouter l'Église, il convient de l'excommunier, c'est-à-dire de lui refuser la participation à la Sainte Cène. Est-ce que quelqu'un peut prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6?
Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous.
Voilà. Mais cette décision donc d'excommunier quelqu'un ne doit pas être prise par une personne, mais par l'ensemble de l'Église, c'est-à-dire au travers des anciens, l'ensemble des responsables de l'Assemblée. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 4 à 5, si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 5, 4 à 5.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.
Voilà. Donc quelqu'un peut être excommunié parce qu'il a une conduite, parce qu'il refuse... les conseils des uns des autres, les conseils des anciens, etc. Et la décision est prise, la personne est excommuniée. Mais attention, attention, attention. Excommunier ne veut pas dire bannir. Excommunier ne veut pas dire bannir. Parce qu'en réalité, quel est le but de l'excommunion ou l'excommunication, on dit?
Oui.
Oui. Quel est le but? Le but, c'est que celui qui en est l'objet reviennent à des sentiments meilleurs. Nous participons à sa sanctification en réalité. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 14 et 15. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Thessaloniciens 3, 14 à 15?
Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère.
C'est clair. Donc, il faut avertir, en fait, le but, c'est que le frère revienne vraiment au Seigneur. Voilà. Alors, il y avait d'autres questions, mais concernant cette fois-ci, non pas les participants, mais les éléments et leur mode d'administration. Parce que là non plus, il y a quelques problèmes. Tout n'est pas précisé concernant la Sainte Cène. Par exemple, le pain. Quel genre de pain doit-on utiliser pour la Sainte Cène? Alors, mettons les choses au clair. La première Sainte Cène instituée par le Seigneur lui-même, c'était au cours d'un repas pascal. Et évidemment, c'était le pain azim qui était utilisé. Mais est-ce que c'est une obligation pour nous d'utiliser du pain azim? Est-ce que son pain azim point de Sainte Cène? Évidemment non. Il n'y a aucune prescription par rapport au pain, au genre de pain que nous devons utiliser. Et aucune prescription non plus par rapport au vin. Parce que il est dit, par exemple, Jésus prit une coupe. Bon, c'est vrai, c'était du vin. Mais ailleurs, il est parlé du fruit de la vigne. Regardez, par exemple, Matthieu chapitre 26, verset 29.
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Voilà, donc il est question du fruit de la vigne. Donc le jus de raisin peut aussi convenir.
Oui.
Bon, on peut encore aller plus loin. Si dans un endroit, vous n'avez ni vin, ni jus de raisin. Songez au premier missionnaire qui arrivait, par exemple, en Afrique. Pas de vin. Pas de jus de raisin. Parce que là-bas, les raisins ne connaissent pas. Que faire? C'est là où nous devons revenir à un principe qu'on avait énoncé. Il ne faut pas que le symbole prenne le pas sur la réalité qui le représente. Et des missionnaires ont utilisé, par exemple, le vin de palme à la place du vin. C'est du vin, oui, mais du vin de palme. C'est pas du jus de raisin. Donc, c'est vraiment, bon, autant que possible, nous devons nous approcher de ce que les apôtres ont enseigné, on dit, de ce que, des éléments qui sont tels qu'ils ont été prescrits. Mais, que ces éléments-là ne deviennent pas le fer de lance, sans ça, on ne peut rien faire. Non. Ce qui est important, c'est le symbole, c'est ce qui représente ces éléments. Le corps brisé de notre Seigneur et le sang versé pour nos péchés. Et la dernière fois, Anna, notre sœur, avait posé cette question, mais est-ce qu'on va prendre la Sainte Cène à tous les dimanches, tous les samedis, à quelle fréquence? Alors, la Bible ne donne aucune indication là-dessus. Il est simplement dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, toutes les fois. Donc il n'y a pas de prescription par rapport à la fréquence. Alors, dans la Bible, nous trouvons par exemple les chrétiens de Jérusalem qui rompaient le pain dans les maisons régulièrement. Alors, il n'est pas précisé qu'à chaque fois qu'ils allaient dans les maisons, ils rompaient les pains. Ce n'est pas précisé. Mais en tout cas, ils avaient le coutume de rompre le pain dans les maisons. En revanche, il y a une précision importante dans Actes chapitre 20, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire Actes chapitre 20, verset 7 ?
Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à midi.
Voilà, le premier jour de la semaine. Voilà une précision qui est là par rapport à la Sainte Cène. Bon, donc c'est bien, beaucoup de chrétiens se sont basés sur ça pour prendre la Sainte Cène le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Nous, ici, 316 boulevard de la Paix, nous le faisons. Mais ce n'est écrit nulle part que ça doit être obligatoirement le dimanche. Il y a des assemblées qui le font le samedi, d'autres, etc. Donc, il n'y a vraiment aucune prescription par rapport à la fréquence. Ça va, Anna?
Ça va, ça va.
Bien, alors une autre question. Doit-on utiliser un seul pain et boire tous dans la même coupe? Une question qui avait secoué quelques églises fut un temps. Hein. Si tous vous ne buvez pas dans la même coupe et que si vous n'avez pas le même pain, ce n'est pas la Sainte Cène que vous prenez. C'est tout autre chose sauf la Sainte Cène. Est-ce que c'est vrai? Nos textes parlent, c'est vrai, d'une coupe à laquelle tous participent. Prenez 1 Corinthiens 10, 17 par exemple. 1 Corinthiens 10, 17.
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain.
Voilà. Les croyants forment un corps, donc il y a une unité, et donc il y a un pain. Oui, mais cependant, imaginez une église où il y a 100, 200, 500, et parfois même plus de 1000 personnes. Quelle devrait être la grandeur de la grosseur de la contenance de la coupe? Quelle devrait être la grandeur du pain? Est-ce qu'il y a des fours pour faire cuire un tel pain?
Mais en plus, c'est de Christ qui parle.
Oh,
c'est
oui.
C'est pas du pain de la Sainte Cène, c'est de Christ qui parle. Hein.
Pardon, j'ai pas très bien compris.
Je dis, dans ce verset, c'est de Christ qu'il parle, non? Comme étant le pain de vie. Enfin, moi, je... Non?
Tu peux relire, s'il te plaît, le verset?
Alors,
dans ta version semeur.
La version semeur, bon, comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Mais quand on regarde au-dessus, il y a Dieu ne signifie pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ. Donc pour moi, le pain, c'est écrit, enfin moi je le comprenais comme Christ, on est au bénéfice.
Ah ben là, je me suis trompé de
Ah mais non, mais je... Non, pas du tout.
C'est bien ça.
Bon. Non, mais
Merci, non, Adieline. Non, mais tu as raison. Non, mais voilà, la question qui se pose, est-ce que vraiment il est raisonnable et possible même, d'un point de vue matériel, de boire tous dans la même coupe et de manger un seul pain unique? Évidemment, non. Et c'est là où nous devons revenir à notre principe. Il ne faut pas que le symbole prenne le pas sur la réalité qui le représente. Ça tombe sous le coup du sens qu'il est absolument impossible, dès qu'une église dépasse la dizaine, la vingtaine, la trentaine de membres, que tous boivent dans la même coupe. Moi, je me rappelle quand on était au maréchal Joffre, là-bas, on était quoi, une vingtaine, une trentaine maximum. Oui, c'est vrai, à l'époque, on buvait dans la même coupe. Dans la même coupe. Mais lorsque vous êtes 50, 100, 200, comment voulez-vous boire dans la même coupe? Et surtout, lorsqu'il y a des problèmes de contagion, par exemple, avec le Covid et tout ça, et que les autorités d'ailleurs vous disent de prendre des mesures par rapport à ça, comment voulez-vous agir? Donc, c'est quelque chose, ça tombe sur le coup du sens, tout simplement. Alors, l'autre question, peut-on célébrer la Sainte Cène en privé? Alors, avant de répondre, j'aimerais dire ce qu'on entend par privé. Privé, ça veut dire, par exemple, avec ma femme et mes enfants. Par exemple, une personne seule, malade, dans son lit. Ou par exemple, je suis en compagnie des amis. Est-ce que nous pouvons organiser un petit culte et partager le pain et le vin? Alors, il faut faire attention par rapport à ça, parce que la Sainte Cène a une forte connotation communautaire. Communautaire. La Sainte Cène a une valeur communautaire, tout comme pour les dons spirituels. L'agape fraternelle n'a de sens que dans un cadre communautaire. En priorité. Dans un cadre communautaire. Et si vous relisez, par exemple, 1 Corinthiens, donc chapitre 11, les versets 17 à 34, vous allez vous rendre compte que chaque fois que l'aspect individuel est mentionné, c'est toujours dans un sens négatif. L'apôtre Paul mentionne toujours, par rapport à la Sainte Cène, les aspects individuels sont toujours mentionnés de manière négative. Donc la Sainte Cène a vraiment une valeur communautaire en priorité. Mais il faut reconnaître qu'il y a des cas exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels, par exemple, quelqu'un qui est en incapacité, qui est malade par exemple, dans son lit, gravataire, et qui ne peut pas participer, ne peut pas venir au culte pour participer avec ses frères et sœurs à la communion, à ce repas du Seigneur. Certaines églises, pas toutes, autorise que les anciens portent les éléments à la personne qui ne peut pas se déplacer. Donc il y a deux ou trois anciens qui sont délégués pour aller apporter les éléments à la personne qui est malade, par exemple. Moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, c'était fait, hein, il y avait Norbert Clément qui avait donc cette habitude, en quelque sorte, d'apporter des éléments à une personne qui était malade. Donc ça se fait, la Bible n'est pas fondamentalement contre ça, ce sont des cas spéciaux, même des chrétiens se sont retrouvés dans une situation spéciale où ils ne pouvaient pas participer avec leurs frères et sœurs à la communion fraternelle et donc qui ont célébré la Sainte Cène dans un cadre familial, dans un cadre local. Mais il faut que ça reste exceptionnel. Il ne faut pas en faire une coutume, une habitude, parce que la Sainte Cène a vraiment une connotation communautaire. Tous les textes que nous avons lus sont pointent vers la communauté. C'est une communion, la Sainte Cène, c'est une communion. Voilà, donc c'est une réponse peut-être qui ne vous satisfait pas, parce qu'elle n'est pas très tranchée. Mais je pense qu'on n'a pas tellement le choix parce que nous avons cette liberté de pouvoir adapter certaines choses, mais il faut rester prudent, vraiment rester prudent. Notamment par rapport à la Sainte Cène, il y en a qui la célèbrent un peu trop facilement. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, avec ma petite famille, on s'est réunis et puis on a une petite étude biblique et on prend la Sainte Cène. Faire attention. Il faut vraiment être prudent là-dessus. Ça doit rester exceptionnel. Alors, il y a une dernière question. Est-ce qu'on peut conclure? Et ça, franchement, c'est une question qui est un peu, on va dire, embarrassante. Parce que l'apôtre Paul nous a fait froid au dos quand il a rappelé dans 1 Corinthiens 15, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont décédés. Oh là là! Donc ça veut dire que vraiment, Il faut faire très attention avant de prendre la Sainte Cène, s'examiner, est-ce que je suis bien, on a dit la dernière fois que non, ce n'était pas ça. Mais une autre question est sous-jacente. Mais alors, il y a beaucoup de malades dans une église, par exemple. Il y a des malades, il y a des personnes qui décèdent. Est-ce que ces personnes sont sous le coup du jugement dont parle l'apôtre Paul ici? Est-ce qu'on peut dire, ah ben un tel est malade, ah ben il a peut-être pris la Sainte Cène d'une manière indigne? Est-ce qu'on peut le dire? On peut l'affirmer. Ça peut arriver, c'est arrivé dans l'église de Corinthe. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment très sérieux. Nous devons nous examiner. Mais nous examiner, on a dit la dernière fois, c'était par rapport au sacrifice de Christ. Que je sois conscient que si je me lève, c'est parce que ça a coûté très, très, très cher à notre Seigneur. Je ne dois pas me dire, oh, allez, c'est pas grave, tu n'es pas, oh, mais tout le monde le fait, allez, tu peux quand même te lever, non. Alors, à ce moment-là, mieux vaut franchement ne pas se lever. Mais nous nous examinons pour nous lever, pas pour nous asseoir et dire, moi, je ne participe pas. Mais alors, les personnes malades sont peut-être sur le coup du jugement. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Mais est-ce que c'est systématiquement? Ben là, moi, je ferai quelques pas en arrière, personnellement. Non, frères et sœurs. Frères et sœurs, regardez Philippiens 2, verset 25 à 30. Est-ce que quelqu'un peut lire Philippiens 2, 25 à 30?
J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que ce soit moi-même et que je sois moi-même moins triste. Voilà. Recevez-le.
On peut s'arrêter là. Voilà, ce frère, est-ce qu'il était sous le coup du jugement de Dieu? Mais l'apôtre Paul lui-même, cette fameuse écharpe, vous vous rappelez? On pense que c'est une maladie des yeux. Lui aussi, sous le coup du jugement? Non. Nous devons vraiment faire attention et... D'ailleurs, nous n'avons pas à juger, hein, on l'avait dit la dernière fois, nous n'avons pas à nous juger les uns les autres, mais nous devons simplement prier les uns pour les autres. Donc, si un frère est malade, qu'on prie pour ce frère, pour cette sœur, mais pas porter un jugement en disant, non, cette personne est sous le coup du jugement de Dieu, cette personne a péché quelque part. Comme les amis de Job, vous vous rappelez, qui disaient que Job était malade parce qu'il avait péché. Ça peut arriver, mais quand ça arrive, mieux vaut aller voir le frère, la sœur, et montrer avec amour là où il a péché, là où il y a un problème. Mais plutôt que de dire, ah, mais toi, tu nous cachais ça, mais bien fait pour toi. Hein? Non, mais nous ne jugeons pas de cette manière-là. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Bon. On peut peut-être prendre une ou deux minutes, mais pas plus, pour parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a une question qui lui brûle les lèvres. Oui. Voilà. Bon, alors, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Est-ce qu'on peut faire ceci? Bon, voilà. Donc, les quelques... Mais en tout cas, respectons bien la parole de Dieu, quand elle est claire, on doit appliquer. Mais lorsqu'elle n'est pas claire, il faut vraiment prendre toute la parole de Dieu et en dernier ressort, toujours se rappeler que le symbole ne doit pas prendre le pas sur la réalité qu'il représente. présent. Voilà donc la fin de 1 Corinthiens 11. Merci à tous. Donc, si quelqu'un peut prier pour conclure.